Shubham, c'est l'heure de votre chronique à 8h17, Brice Couturier.
Merci Marc. Certes, la France n'a pas inventé la caricature, on en trouve paraît-il dans certaines fresques romaines. Et la réforme a été l'occasion d'une intense guerre de propagande par le dessin entre protestants et catholiques à travers toute l'Europe. Il faut voir la gravure sur bois de Lucas Cranach l'Ancien représentant le pape chevauchant une truie, tenant d'une main un excrément fumant et bénissant de l'autre pour saisir l'intensité de la querelle et la virulence des attaques lancées de part et d'autre. D'emblée, le genre acquérait certaines de ses règles, le réalisme qui permet l'identification rapide, le symbolisme qui délivre un message clair et peut dispenser de tout accompagnement textuel, la dénonciation de l'adversaire, en particulier son hypocrisie, ses doubles jeux, et puis la scatologie, la réduction de l'homme à l'animalité. Mais c'est bien en France qu'a été inventée au XIXe siècle une presse entièrement consacrée au dessin d'humour, ce qu'on appelle aujourd'hui le dessin de presse. Honneur à notre compatriote Charles-Philippe Pont, puisque c'est lui qui a eu l'idée de lancer en 1830 un hebdomadaire illustré, La Caricature. Balzac, associé au lancement, se charge de rédiger le prospectus publicitaire. Les auspices sont favorables. Sous le règne libéral du roi bourgeois, la censure s'est relâchée et la lithogravure permet la reproduction de dessins très élaborés. Le succès est tel que Philippon lui adjoint bientôt un quotidien, le Charivari. Les publications de Philippon s'acharnent sur le roi Louis-Philippe, invariablement représenté en forme de poire, en guise de visage. Mais la censure frappe, vous le rappeliez tout à l'heure, Marc. Daumier a pris 6 mois de prison pour un dessin représentant le roi en Gargantua, la bouche immense avalant le fruit du travail que le peuple lui apporte par brouettées entières. C'est la grande époque de la satire sociale. Daumier, moraliste implacable, Traviès, formidable metteur en scène du contraste entre la misère du peuple et les bourgeois ventrus porteurs de haute forme, Granville, spécialiste de la satire animalière. La censure revient en force sous le Second Empire, mais la presse fait pourtant à l'époque un large usage du portrait à charge, et surtout les caricaturistes ont du talent sous la Troisième République naissante, époque de forts affrontements idéologiques, toujours propice au dessin. Christian Delporte, auteur d'une histoire de l'image politique en France, a fait observer que l'affaire Dreyfus n'aurait pas connu un tel retentissement sans le relais que lui ont apporté la guerre entre dessinateurs de presse des deux bords. La République vient d'abolir la censure par la loi de juillet 1881. Les deux camps s'en donnent à cœur joie. Pour Delporte, c'est le début du pouvoir de l'image qu'on constatera au XXe siècle. L'assiette au beurre de tendance anarchiste, violemment anticléricale, fondée en 1901, publie des dessins iconoclastes, Forain, Valoton, Benjamin Rabier, Grandjouan. Mais c'est dans l'entre-deux-guerres que les caricaturistes passent franchement au journalisme, anticipant les enquêtes dessinées de Charlie Hebdo. Il ne s'agit pas seulement de faire rire en se moquant, mais bien d'informer. Sénep à droite, Cabrol à gauche, massacre les politiciens du camp d'en face avec verve et férocité. Voyez les caricatures d'Adolf Hitler par Cabrol, elles sont parmi les plus repoussantes qu'on ait dessinées. Je pense notamment à son accès de fureur. Depuis la guerre, certains dessinateurs sont devenus emblématiques, tels que Faisan au Figaro, Sempé puis Tim à l'Express, Wilhelm à Libération. En s'attaquant à Charlie Hebdo et en assassinant, outre son directeur Charb, plusieurs dessinateurs talentueux de cette publication, le terrorisme islamiste s'en est pris à l'un des symboles même de notre culture, fruit d'une longue histoire. Le droit à la caricature est une liberté acquise dans notre pays après plusieurs siècles de lutte contre l'obscurantisme, les pouvoirs religieux et politiques, le cléricalisme. C'est pourquoi cette liberté n'est pas négociable. Quand on me parle de la violence d'une caricature, je ne peux m'empêcher de penser à ce dessin de Delise qui montre un croyant blessé par les incroyants, il tient un Charlie Hebdo d'une main et de l'autre se cache les yeux parce qu'il pleure, et un incroyant blessé par les croyants, et ce dernier baigne dans une mare de sang, un couteau dans le ventre. Au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie au cinéaste néerlandais Theo van Gogh, le regretté Abdelwahab Meddeb avait déclaré, je le cite, « Ce n'est pas à l'Europe de s'adapter à l'islam, c'est à l'islam de s'adapter à l'Europe, à l'islam d'apprendre à subir la critique, même la plus offensante, sans en venir au crime de sang pour se défendre. Ici, il doit savoir que le respect des croyances n'a pas pour entrave l'expression des opinions. » Une phrase à méditer par les autorités de la ville de Velgenrette en Belgique, Elles ont en effet décidé de fermer Cinédier, une exposition consacrée à la censure à travers l'histoire, parce qu'un panneau était consacré à Charlie Hebdo. Une exposition consacrée à la censure qui s'auto-censure, terrible signe des temps. Peut-être, peut-être qu'une époque se termine bel et bien. Une époque dont les assassins de Charlie Hebdo auraient sonné la fin sans même en avoir vraiment conscience. Une époque placée sous le signe de la dérision, qui convenait bien aux années 60 et 70, années frivoles et vouées à la déconstruction des mythes qui nous oppressaient. Nous serions entrés dans une nouvelle époque, une époque où se mêle de plomb, avec l'expansion de l'islamisme qui ne donne pas vraiment envie de rire.